France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1930 à New York, étudiant à Princeton puis à Harvard, dont il sortit diplômé de musicologie en 1952, Harry Matthews a publié ses premiers poèmes en 1956 aux États-Unis. Avec le poète américain John Ashbery, rattaché comme lui à la dénommée École de New York, il fonda la revue Locus Solus, un titre emprunté à Raymond Roussel, dont la découverte fut pour lui fondamentale. Après son installation en France au début des années 50, il fit en 1970 la connaissance de Georges Perec, dont il devint l'ami, et par l'entremise duquel il rejoignit l'Oulipo en 1973. Disparu en 2017, il fut l'auteur de plusieurs recueils de poésie, de traductions, d'essais critiques et de 6 romans, depuis Conversion, son tout premier, publié aux États-Unis au début des années 60, jusqu'à Ma vie dans la CIA, paru en 2005. En 1990, à l'occasion de la reparution de Conversion aux éditions Gallimard et du naufrage du stade Audradec aux éditions POL, il était l'invité d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain. Il y racontait son amitié bouleversante et irremplaçable avec Perec, son usage des contraintes littéraires et le travail de composition de ses 2 romans. Première diffusion sur France Culture le 27 avril 1990.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Vous avez eu de la chance, dit-il, d'entendre notre madrigal ce matin. Chose étrange, notre système fonctionne en proportion indirecte avec la beauté du temps. Il faut que le jour soit bien mauvais pour que la musique qu'on entend soit belle. Du jour au lendemain avec Harry Matthews à l'occasion d'une double réédition, le naufrage du stade Audradec, traduit d'américain par Georges Perec avec la collaboration de l'auteur chez POL, et Conversion, traduit par Claude Portail et Denis Roche, toujours avec la collaboration de l'auteur, et cette édition est revue par l'auteur chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Matthews, vous pouvez dormir tranquille maintenant puisqu'on est arrivé à l'heure des rééditions de vos livres.
Oui, c'est assez surprenant. Je ne sais pas si c'est tout à fait gratifiant. Surtout, en ce qui concerne l'imaginaire, j'avais toujours pensé à cette collection comme une collection d'auteurs morts.
Oui, il y a quelques auteurs bien vivants parmi les plus importants dans cette collection.
Oui,
regardez
je sais.
Des forêts, regardez l'iris, regardez Kinia.
Oui, oui, oui. Non, je suis très content d'être là. Quand même, j'ai eu un moment de réflexion sur les années qui passent.
On va peut-être faire un bref rappel biographique. On va dire que vous êtes né à New York, hein.
Oui.
Comme vous parlez français comme moi, ça ne s'entend pas. Et qu'à New York, vous avez étudié la musique. Je crois que c'est important de le signaler parce que la musique va intervenir aussi dans votre mode d'écriture.
C'est certain. Je l'ai étudié d'abord à l'université, une chose qu'on peut faire même si on est dans ce qu'on appelle les sciences humaines, enfin les humanities, comme on dit chez nous, on peut faire des études musicales. Et j'avais commencé là pour suivre à Paris très peu de temps, mais quand même.
Alors je me souviens qu'il y avait un critique au moment où a paru votre livre, qui a ce beau titre, « Les verts champs de moutarde de l'Afghanistan ». C'est un roman qui avait été traduit par Pérec déjà en 1974, chez De Noël, dans la collection Lettres Nouvelles. Et ce critique, pour saluer la publication du roman, disait que c'était le premier roman en couleur et en musique publié en France. Vous vous souvenez pas?
Je ne m'en souviens pas, mais je suis ravi de l'apprendre.
Ouais. Ah, c'était Jean-Marc Roberts.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, dans les années 60, vous avez appartenu à la fameuse école de New York.
Oui, j'étais un peu un associé. C'est-à-dire que les membres qui m'ont coopté, et bien sûr, il n'y a pas de cooptation, il n'y a pas d'école proprement dite. Mais les membres que je connaissais bien, je les ai connus ici, et surtout John Ashbery, qui a joué un rôle très important dans ma vie, et surtout dans ma vie d'écrivain.
John Ashbery, qui est surtout un poète.
Qui est poète. À l'époque, j'étais essentiellement poète moi-même. J'avais rien publié à part des poèmes, quand je l'avais connu, quand je l'avais rencontré en 1956. J'avais très envie d'écrire de la prose, d'écrire de la fiction, d'écrire un roman, et toutes mes tentatives n'aboutissaient pas. Et c'est d'ailleurs grâce à un des résultats de ma rencontre avec John Ashbery, c'est-à-dire la découverte de Raymond Roussel, que j'ai enfin trouvé une porte d'entrée dans le royaume de la prose.
Mais alors pour nous, cette fameuse école de New York, c'était le grand mouvement d'avant-garde à l'époque. Et puis, en fait, vous contestiez un peu, à ce moment-là, qu'il y ait aux États-Unis une avant-garde littéraire. Vous disiez, il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a que des francs-tireurs.
Oui, c'est vrai. C'est moi-même qui a dit ça, je crois, à un moment, même plus tard. C'est un point de vue que je maintiens, dans la mesure où ce qui manque à l'existence d'un avant-garde, c'est un establishment, c'est une tradition bien établie et centrale. Ça n'existe pas vraiment aux États-Unis. Il y a plusieurs traditions. Il y a celle du sud, celle de la nouvelle, du nord-est du pays. Depuis aussi, maintenant, on est en train d'en créer une sur la côte ouest. Mais à cette époque-là, c'est certain, on se sentait très, très frustré dans l'effort de créer quelque chose de neuf, de façon efficace, qui ne soit pas apparence purement gratuite, qui porte au cœur de l'acte littéraire.
Et la littérature, c'est toujours gratuit, non?
Oui, certes, mais ça occupe beaucoup d'espace dans nos têtes, malgré sa gratuité. C'est un domaine, qui paraît aussi essentiel que gratuit. Pourquoi? C'est peut-être ça me dépasse un peu comme sujet.
Alors, en quoi vous, Harry Matthews, dans le contexte américain, vous pouviez vous considérer comme un franc-tireur?
Je me suis trouvé dans la dans la position de quelqu'un qui avait découvert un filon dans la fiction, qui n'avait pas existé auparavant dans la prose américaine. Je dis pas que je l'ai découvert, à vrai dire. Mais après cette lecture de Roussel, j'ai commencé à travailler à la fiction d'une façon que je peux seulement appeler poétique, c'est-à-dire de concevoir la fiction comme une chose qui, comme la poésie, peut partir de l'abstraction.
C'est ça.
Des formes abstraites, des règles abstraites, des pratiques qui n'ont pas de rapport avec mon enfance, enfin pas de façon consciente, pas de façon évidente, de tout un domaine de pensée qui, pour moi, semblait auparavant lié à la poésie, avec quelques exceptions, notamment, mais dans un domaine tout autre que le mien. Où il y a d'autres écrivains comme moi qui ont apparu à peu près à la même époque, à l'exception quand même de Joyce qui a cherché quelques années après l'apparition du Liszt de justifier son livre par les schémas non réalistes qui sous-tendaient le livre. Mm. Mais en général, dans le contexte eisenhowerienne, n'est-ce pas, de l'époque d'Eisenhower, il y avait, on a oublié maintenant, c'était une époque de réaction politique, et en littérature était aussi, je dirais pas que c'est réactionnaire, mais c'est assez ennuyeux, assez conventionnel, assez attaché à des formes, ce que j'appelle le réalisme de banlieue. Mmh.
C'est-à-dire que vous, ce que vous disiez à l'époque, c'est que la littérature doit être le sujet de la littérature, ou la poésie le sujet du poème, comme on l'a dit.
Oui, en partie, c'est certain.
Il n'y a pas d'autre matière de l'écriture que la matière des mots.
Il n'y a pas autre matière que l'imaginaire. Je dirais quand même pas les... Pas seulement de langage, je veux dire, ça c'est un discours que d'autres ont tenu, et je n'y suis pas hostile, ce n'était pas tout à fait le mien. Et c'est la règle primordiale de Roussel, rien sauf l'imaginaire, qui m'a inspiré, autant je crois, peut-être plus que... l'idée de ces procédés, de partir de, effectivement, comme votre remarque le suggère, partir des mots pour créer d'autres mots. Cela, c'est... On ne dit pas d'un poète qui va écrire des alexandrins qu'il n'y a que les alexandrins qui créent la poésie, mais c'est un point de départ où tout le reste peut entrer. Plutôt que le point de départ d'un réalisme qui, pour moi, en tout cas, est faux, qui peut produire de très bonnes choses, mais qui, en tout, dans le fond, étant basé sur l'illusion du fait, dans le fond, étant quelque peu journalistique, est condamné au mensonge caché, mensonge non avoué. Tandis qu'il est très évident dans ce que j'écris que le mensonge est avoué, la fiction est avouée, on ne peut pas échapper, au moins dans les trois premiers livres, certainement dans les deux livres que vous avez nommés tout à l'heure, on ne peut pas se bercer de l'illusion que ces livres vous présente ou vous représente une vie que quelqu'un aurait pu normalement vivre comme ça. Je veux dire, c'est très spécifique, c'est très hors des chemins du réalisme.
Et puis, ça ne remplit pas de fonction. Et ça, c'était complètement à contre-courant par rapport à l'idéologie dominante aux États-Unis à l'époque.
Tout à fait. Et... J'étais loin d'être le seul, je veux dire, mais vous me demandez pourquoi je me sentais franc-tireur, c'est ça. À l'époque, j'ignorais Pynchon, par exemple, qui a publié son premier livre à peu près à la même époque que Conversion, et avec un éclat qui dépassait de loin le mien. Conversion est disparu en Amérique pendant très longtemps. Pas entièrement. Il est disparu, mais il a été lu par des gens qui, 30 ans plus tard, sont devenus... les directeurs de collections littéraires.
Alors, ce que vous n'aimiez pas du tout non plus aux États-Unis, c'était qu'il était difficile de travailler en commun, qu'il n'y avait pas de possibilité de constituer des groupes littéraires.
Je ne sais pas si c'est spécifiquement le travail. Je me sentais très seul là-bas, à cette époque-là. Il faut dire que j'avais grandi dans un milieu, la haute bourgeoisie ou la haute moyenne bourgeoisie protestante, qui était à ce moment-là à son dernier apogée. Depuis, il a perdu un peu de son brillant. Mais à l'époque, cette bourgeoisie se sentait très puissante. J'avais été formé dans ces écoles. Il y avait des individus extraordinaires, mais le milieu, l'atmosphère de ce milieu-là ne me donnait aucune place pour non pas faire ce que je voulais faire, parce que je ne savais pas ce que c'était, mais de rechercher la possibilité d'une écriture qui pourrait rejoindre l'effet éclatant qu'avait eu la poésie sur moi quand j'étais jeune, quand j'étais petit même.
Actuellement, Harry Matthews, vous vivez à Paris. Pourquoi avez-vous choisi cette capitale de la vieille Europe ?
Je voudrais pouvoir répondre parce que c'est la capitale mondiale de la culture et il n'y aura jamais d'autres lieux aussi merveilleux pour un écrivain. Et ça, c'est un parti vrai, mais ça ne s'est pas passé comme ça, à vrai dire. C'était d'abord la fuite de me sortir des États-Unis, et en faisant cela, je m'étais marié très jeune avec Niki de Saint-Phal, qui étant d'origine française, voulant faire des études de théâtre, nous portait plutôt vers Paris. Moi, je pensais encore faire la musique à cette époque-là, Vienne étant peut-être le but ultime, je ne suis jamais arrivé. Et donc, on a atterri comme ça, une première fois à Paris, que je connaissais déjà un peu en touriste, et qui m'intéressait énormément. Et je crois qu'il y a eu, au départ, une espèce de désespoir d'être à Paris. Je veux dire que vivre à Paris, quand on a 22 ans, qu'on connaît personne, et vous savez que c'est difficile de connaître les gens, je veux dire, trouver d'autres écrivains, même quand on les a trouvés, de les voir plus qu'une fois tous les 6 mois. Vous, par exemple, je vous vois à peine 2 fois par an, en dehors des studios. Je me sentais encore plus seul, dans un sens, qu'à New York, mais pas du tout de la même façon. Je sentais que dans cette ville, tellement qui était belle et attirante et évidemment avait toute une façon de vivre qui, je crois que là, que ce qui me touche le plus, c'était une chose très simple. C'était l'esprit méditerranéen manifesté dans les cafés où l'extérieur et l'intérieur des immeubles n'existaient plus, où on passait. À New York, ou même à Londres, dans les villes du Nord, il y a la rue qui est territoire hostile, public, extérieur, et puis il y a l'intérieur chaud, douillet, confortable, agréable. Tandis qu'ici, c'était tout autre chose, c'était tout mélangé, toutes mes idées sur la façon de marcher dans les rues étaient transformées, de voir les gens dans la rue, de me voir moi-même. Et je me voyais tout petit, je me voyais pratiquement inexistant. Alors c'était une espèce de défi. Je me suis dit, quand même, je vais arriver, je veux faire partie de tout ça. Et je me souviens, c'est encore un exemple, c'est un exemple un peu plus précis et tout aussi, encore plus bête. Je me souviens, un jour, j'étais assis au café qui fait l'angle, je crois que ça s'appelle le Clunet, à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain. Et il y avait des clients qui arrivaient, à peine plus âgés que moi, ou peut-être aussi jeunes que moi, qui serraient la main aux garçons. Et je me suis dit, merde, ça c'est des vrais Parisiens. Et je me suis dit, je voudrais arriver au moins là, même si je ne suis pas reçu dans les salons de... je ne sais pas qui, je pourrais avoir mon bistrot, je pourrais faire partie de cette scène si, si autre et si attachant. Mais je me sentais exclu et pas du tout à mon aise. Et c'est ce manque d'aise qui m'a provoqué, qui a aggravé le désir, qui a maintenu le désir. Mais je ne pouvais pas, à cette époque-là, parler de Paris, capitale littéraire, ou quoi que ce soit. C'était une chose beaucoup plus... Je sentais là... Vous savez, quand je suis arrivé en France la première fois, en bateau, au Havre, et j'ai vu des dockers qui attendaient le bateau pour la marée, en bleu, cigarettes entre leurs lèvres, béret peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas faire trop de folklore, mais en tout cas ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait d'importance, que ces gens-là, qui n'étaient ni beaux, ni particulièrement exceptionnels, étaient tout autres. C'était une autre culture dans le sens large du terme. C'était des gens formés dans un autre esprit de la vie, et qui m'ont fasciné, et qui m'ont attiré comme... faisant partie d'un passé atavique, on dit, un passé inconnu de moi-même, où une fois j'avais vécu. Et à Paris, c'était cette même impression déraisonnable et primaire qui m'attirait. Et puis, en voulant répondre à ce défi, je suis resté. Et en restant, j'ai eu des enfants. Enfin, un deuxième enfant. C'était en Espagne, à vrai dire, mais c'était toujours Paris, le centre de nos périples.
L'Espagne, c'est toujours Paris.
Je dis pas ça, mais dans tous mes déplacements en Europe, j'ai vécu 2 ans en Italie, j'ai vécu 2 ans en Espagne.
À Venise, vous avez vécu?
À Venise.
Pas mal Venise aussi.
À Venise, c'est extraordinaire, mais c'est tout autre chose. Ça mérite beaucoup de...
Ça mérite un livre.
De commentaires. Ouais. Mais même à Venise, je revenais à Paris régulièrement. Je voulais pas. Et là, c'était foutu. Ça, c'était des années, des décennies après. Et j'avais appris que si je ne revenais pas à ces nouvelles racines, habitudes, quel mot faut-il donner, à ma vie à Paris, je me coupais de quelque chose de très, très, très important pour moi.
C'est pour vous donner des racines, alors que, en 1973, vous adhérez à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et c'est important parce que ça permet peut-être de préciser un peu votre démarche.
Oui, tout à fait. Je voudrais simplement dire que si j'ai dit racine tout à l'heure, c'est un peu entre guillemets, parce que c'est un mot qui me semble...
Réservé aux pommes de terre.
Je ne sais pas. C'est un mot dont les Américains se servent énormément. Ouais. C'est les gens... les moins enracinés que de n'importe quel pays du monde, à part certains, moi en tout cas. Et dans l'Oulipo, j'ai retrouvé peut-être pas des racines, mais j'ai certainement retrouvé une famille. Et c'est vraiment une famille qui marche comme une famille. Je veux dire que dans un sens, ça va de soi maintenant. Je veux dire, c'est pas que ça va de soi, mais je veux dire qu'on met pas en question les opinions politiques ou les goûts pour telle ou telle chose des uns des autres. Je veux dire, nous sommes ensemble dans cette entreprise-là, cette qui est une toute petite entreprise. Et nous aimons beaucoup à l'intérieur de cette structure-là. Et justement, il s'agit de la structure à l'Oulipo.
Et c'est là que vous avez rencontré Georges Perec?
Non, c'est le contraire. C'est lui qui m'a...
C'est lui qui vous a rencontré.
C'est lui qui m'a présenté à l'Oulipo.
Oui.
On s'est connus, je crois, 2 ans auparavant. Et, ou peut-être 1 an et demi auparavant. Et c'est lui qui m'a amené à l'Oulipo. J'étais ce qu'on appelle l'invité d'honneur. On a parlé un peu et puis on m'a coopté. Là, il s'agit d'une vraie cooptation. Bien que l'Oulipo ne soit pas une école littéraire, c'est quand même beaucoup plus réel comme groupe que l'école de New York qui était c'était un nom qui venait de dehors. C'est pas nous qui nous pensons en tant que ça.
Avec Perec, vous aviez une drôle de complicité.
Oui, oui. C'est une amitié tout à fait bouleversante et je crains irremplaçable. C'est quelqu'un que j'ai aimé tout de suite, qui m'a aimé tout de suite, et ce n'est que longtemps après que j'ai eu une explication de la rapidité, sinon de l'intensité de notre amitié. Et je l'ai eu juste l'année dernière, de Claude Burgelin, qui a écrit un beau livre sur Perec, qui m'avait dit que Perec avait toujours eu le rêve d'un anglo-saxon grand, voyageant beaucoup, et enfin très différent de lui. Et quand Claude Burgelin m'a dit ça, je me suis rendu compte que moi j'avais toujours eu un rêve complémentaire ou supplémentaire qui était du juif européen, exilé et porteur de l'essentiel de la sensibilité de notre civilisation. Et donc il y a eu une réponse d'une part et d'autre. Évidemment, c'était peut-être c'est pas une explication, mais c'était peut-être le déclic, la chose, ce qui a rendu notre complicité si facile.
Ça devait pas être triste quand Perec traduisait vos livres avec votre concours, bien sûr.
Non, effectivement, c'était très très allègre, au moins dans les premiers rounds. Parce que les deux livres que Georges a traduits présentaient des problèmes affreux de jeu de langue, de jeu de mots, chose auquel il excellait. Et il était très content de ces trois, et moi aussi. Ça devenait un peu moins gai, un peu pas triste, mais un peu moins gai vers la fin, parce que je suis maniaque. Et j'ai un rêve de la traduction parfaite, et c'est en insistant que je les ai eus. Et Georges me lisait avec grande fierté, peut-être la deuxième version d'un passage, et je lui dis, c'est extraordinaire, comment tu es arrivé à faire ça, je ne comprends pas, mais. Et alors, quand je disais mais, il levait les yeux au ciel, et son expression disait, comment est-ce que j'ai pu me charger d'un emmerdeur pareil? Et ça s'est terminé très bien, mais c'était parfois un peu tendu à ces moments-là.
Et puis ça n'empêchait pas que ça recommence après, avec un autre livre.
Non.
Mon
grand regret, c'est que je n'ai jamais pu lui rendre entièrement le service qu'il m'a rendu, mais on ne trouvait pas à cette époque-là d'éditeur pour ses livres en Amérique. Donc je n'ai traduit que 2 films et des nouvelles.
Mais alors, Harry Matthews, Perec, qui connaissait très bien vos livres, disait qu'il s'agissait d'un univers narratif régi par des règles venues d'ailleurs. Bon. régi par des règles, on s'en doute, puisque comme Oulipien, ça va de soi. Mais alors, quelles sont ces règles? C'est une question difficile. Et surtout, d'où viennent-elles?
Je crois que ce que Georges Perec voulait dire par ça, c'était qu'il venait soit de la mathématique ou d'une idée, pas forcément littéraire, qui était liée ni à la pratique littéraire, ou pas forcément à la pratique littéraire, ni au sujet. Et là, il faut que je me dérobe un peu. Vous savez qu'à l'Oulipo, nous appartenons à deux clans qui convivent tout à fait amicalement. L'un, c'est qu'on peut appeler le clan Perec, c'est les écrivains qui croient que quand on écrit une œuvre oulipien, il faut annoncer ses méthodes. L'autre clan qui est le clan Queneau, enfin, était certainement le premier parmi nous, pense que le mystère ne fait pas de mal.
Mmh. Et je peux pas carte sur table.
Non, exactement, oui. Mais c'est une très bonne métaphore. Vous savez très bien quand vous jouez aux cartes qu'une fois les cartes abattues, tout devient clair, ou au moins apparemment, dans le poker, pas toujours, et que les cartes cachées dégagent une fascination, un charme, qu'ils vont perdre. Et Queneau disait une chose intéressante, il disait qu'on sent les méthodes, on sent les structures. On peut pas sentir ou deviner ce qu'elles sont, mais on peut sentir leur présence et que ça provoque une lecture particulièrement attentive, ce qui est toujours intéressant du moment où le texte tient le coup.
Donc,
alors je peux vous expliquer un peu. Je veux dire, c'est vaguement, dans les premiers livres, il y avait vaguement des schémas rousseliens. J'ai pas fait la même chose, j'ai inventé les procédés analogues, plutôt. C'est-à-dire que, comme vous avez suggéré tout à fait au début, les mots qui inventent d'autres mots, ou un mot qui a plusieurs sens, où est-ce que ces sens peuvent éclater, ou des mots qui normalement sont pris dans un sens, qui ont un sens usuel, ensemble, si on leur donnait les sens secondaires ou inhabituels, qu'est-ce que ça ferait comme matière à récit? Et dans Cigarette, c'était... Mais on ne parle pas de Cigarette, mais Cigarette, c'était autre chose. C'était vraiment une contrainte à structure plus serrée et plus stricte, mais tout aussi invisible.
Il y a donc, Harry Matthews, la réédition de ces deux livres, Le naufrage du stade Audradec chez POL et Conversion chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Alors, Le naufrage, il faut bien dire que c'est un livre dont le titre, à lui tout seul, est déjà une intrigue. Hein, puisque le mot Audradec ne figure qu'à la page 332.
Et oui, et
c'est-à-dire trois pages avant la fin.
Ne dites pas comment. Il faudrait pas. À mon avis, vous savez, je suis un lecteur enfantin moi-même et j'aime beaucoup le côté histoire et surprise, etc. Mm-hmm. Alors je vous demande gentiment de ne pas dire comment ce mot apparaît.
En tout cas,
même s'il n'apparaissait jamais, le nom est mystérieux et il est connu de très peu de lecteurs. Les lecteurs assidus de Kafka le reconnaîtront comme le nom du petit être dans la maison une nouvelle qui s'appelle Les soucis d'un père de famille. Mmh.
Mais comme vous êtes très gentil avec le lecteur, vous lui proposez à la fin un index. Comme oui. Ça, il peut se repérer. Et Audradec, ça renvoie pas à un stade, ni même à un bateau, mais à une certaine grâce Audradec.
Oui. Il y a des choses qu'on apprend dans l'index et pas autrement. C'est-à-dire qu'on apprend.
Le vertige.
C'est peut-être pas si fort que ça, mais il y a des surprises.
Mmh. Oui, parce qu'il y a des écrivains qui sont mentionnés dans l'index, comme Shakespeare, Musil, La Fontaine.
Ah, mais ils sont tous cités.
Et d'autres, mais on ne les trouve pas. Enfin, en tout cas, on ne trouve pas leur nom aux pages indiquées.
Non, mais on trouve les citations. Shakespeare est cité, et Musil, je ne me souviens plus, mais il est certainement cité où on parle de personnage d'un de ses livres, quelque chose comme ça.
Donc là, c'est le travail que vous faites à partir des textes des autres, des citations des autres, mais qui sont rigoureusement dissimulées dans votre propre texte.
Oui, il y a un texte HPU, mais enfin, il y en a très peu. C'est pas du tout porté au niveau de la vie d'emploi, par exemple. Il y a des citations, mais ce n'est pas pour faire le mystérieux. L'index est un... L'index me plaisait parce que c'est une forme littéraire, si vous voulez, qui n'en a pas l'air d'être une. On voit les index tout le temps et ça semble tout à fait utilitaire. Et à vrai dire, il n'y a rien qui ne soit pas capable de produire des effets poétiques, je ne sais comment le dire, mais des effets d'écriture. Même si vous lisez lentement les annuaires, ça peut devenir très, très, comment est-ce qu'on dit, addictive, après un moment. Les noms. Et l'index, c'est un peu ça.
Ouais.
C'est plutôt comme une autre façon de raconter la même histoire, avec des données, des éléments qui manquent dans le texte proprement dit.
Mais là, vous jouez pas seulement avec les noms et les textes, vous jouez aussi avec les genres littéraires, dans un livre comme celui-ci.
Oui.
Est-ce que, par exemple, on doit le lire comme un roman d'aventure, comme un roman d'amour?
Ah oui, c'est ça. Oui, vous avez, pardon, j'avais pas compris. Absolument, c'est d'ailleurs dans tous les, je crois que dans mes trois premiers romans, on fait ça assez systématiquement. Il n'y a pas une, c'est un peu comme mon histoire passionnelle avec Paris. Il y a un niveau dans ces livres et une histoire d'aventure qui serait passionnante et qui est en elle-même passionnante, mais qui est un peu cachée par le reste, mais qui, à mon avis, maintient un certain élan dans la lecture. Mmh. Et là, c'est une dans Audradec, c'est l'histoire de cette recherche de trésor, mais aussi l'histoire d'une arnaque. Le livre entier est une arnaque, mais aussi c'est l'histoire de beaucoup d'arnaques. Et tous ces gens que le mari, qui a écrit la moitié des lettres environ, rencontre...
Un Américain, tristement excentrique.
Oui, enfin, oui.
Il s'appelle Zachary McAltex.
Zachary McAltex, il est bibliothécaire à Miami. Et il est très corpulent, il n'a pas beaucoup d'attrait, apparemment. Il est assez cultivé, même trop cultivé pour le boulot qu'il s'est donné, je veux dire, pour cette recherche de trésors. Et sa femme est tout autre chose.
C'est une Indochinoise.
Une Indochinoise de Paname. Paname.
Qu'est-ce que c'est que ce pays, Paname? J'ai pas trouvé dans la Rousse encyclopédique.
Ah, mais si vous regardez sur la carte, c'est un pays qui est entouré par la Birmanie, le Laos, le Cambodge et le Thaïlande.
C'est un pays qui a été colonisé par l'Italie
Oui, c'est la seule colonie italienne d'Extrême-Orient, et de ce fait, les habitants ont pu bénéficier de l'apprentissage de la langue italienne, des lycées italiens et tout le reste. Et donc, quand Twang Panarapam,
c'est le nom de la jeune fille,
la femme de Zachary, se joint à lui pour rechercher ce trésor, c'est naturellement qu'elle part en Italie où il y a l'autre trace où ce trésor a laissé. L'autre trace, la première étant en Floride ou en Cuba, Floride. Et donc tous les deux se plongent dans des complications de recherche, parfois drôles, j'espère, mais souvent à la longue, tout au moins, futile.
Mmh. On retiendra quand même que ce qui rapproche ces deux êtres, c'est peut-être moins l'amour que l'argent, à travers le trésor, la recherche du trésor.
On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. C'est une chose qui reste un peu ouverte à la fin du livre, parce qu'il semblerait... Lui, il conclut, après des malentendus postaux extraordinaires, qu'elle n'a jamais aimé, que leur rencontre faisait partie de cette arnaque complotée par les arnaqueurs des deux bords de l'Atlantique. Mais sa dernière lettre à elle semblerait prouver le contraire. C'est une lettre qui semble au contraire le seul moment dans le livre où l'expression amoureuse est telle que, ce que vous avez dit tout à l'heure, que il s'agissait aussi d'une histoire d'amour. Mmh. Il y a des gens qui l'ont lu en tout cas comme ça. Et peut-être il faudrait laisser au lecteur ce choix-là entre les genres.
Alors dans ce livre, Le naufrage du stade Oudradek, on rencontre une secte, les Chevaliers du Fuseau, le club le plus fermé de Floride, auquel Zachary va appartenir. Est-ce que le modèle de cette secte, ça serait pas justement l'Oulipo dont nous parlions tout à l'heure ?
Non, non, pas du tout. Ce secte fait partie de l'arnaque, n'est-ce pas ? C'est une... pour tout autre initié... Sauf ce pauvre Zachary, je crois qu'il y aurait quelques soupçons... Que c'est que se réunissent dans les égouts, les égouts, ça s'appelle, oui, sous la ville de Miami, ça devrait sembler douteux, pour dire le moins. Et le modèle était plus, à vrai dire, je me souviens plus. L'initiation qui est présentée comme une fausse initiation, mais qui n'est peut-être pas si faux que ça. C'est vraiment ce qu'on faisait pour les mystères orphiques en Grèce. C'est pas très loin de ça. C'est une vraie initiation, mais c'est monté. C'est une chose montée. Et je crois que c'est une... si je parle de ça, c'est simplement pour dire que ce qui m'attire dans beaucoup d'éléments de ce récit et des récits en général, c'est que on n'a pas besoin de choisir vrai ou faux. Il y a une réalité dans l'événement écrite qui laisse une grande place à la spéculation, au rire.
Pour conclure, je vais citer quand même la première phrase de ce livre. Confiance dans les mots, Twang. Bon, confiance dans les mots, je crois que c'est une bonne clé pour entrer dans vos livres.
Oui.
Et puis, on va quand même rappeler qu'il y a un autre livre qui est réédité en même temps, Conversion, dans l'imaginaire Gallimard, et Conversion, on ne va pas raconter l'histoire, parce que c'est un peu ridicule de raconter
vos
livres. C'est une autre chasse au trésor. C'est votre premier roman que vous aviez écrit en 62, c'est-à-dire à 32 ans. Et le narrateur, comme souvent dans les premiers romans, est un écrivain.
Il pourrait être écrivain, parce que S'il n'avait pas un esprit d'écrivain, vous avez touché une chose très juste, c'est il n'aurait pas marché. Ouais.
Deux livres d'Harry Matthews, réédités ces jours-ci. Le naufrage du stade Audradec chez POL, c'est un roman traduit par Georges Perec. Et Conversion, l'imaginaire Gallimard, c'est une double traduction de Claude Portail et Denis Roche. Du jour au lendemain, Monique Pratt, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 avril 1990. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.